Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Antoine Dulster et Bertille Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Leridon et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Ludovic Auger. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale. La semaine dernière, c'est un vieux conflit qui s'est réveillé, celui qui sommeille à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En effet, la région séparatiste du Haut-Karabakh, située en Azerbaïdjan du point de vue du droit international, mais à majorité arménienne, est le théâtre d'un regain de violence depuis dimanche dernier, donc, dont on peine à faire un bilan exact, même si on sait qu'il y a déjà des dizaines de victimes, et la mobilisation des réservistes de part et d'autre laisse penser que la crise pourrait durer, d'autant que, à la différence des accrochages de 2016, de nouveaux acteurs semblent enclins à s'y engager, au premier rang desquels la Turquie, qui semble vouloir ouvrir un nouveau front après la Syrie et la Libye. Alors, quelle est la situation sur place? Peut-on espérer un règlement du conflit? Faut-il craindre une régionalisation, voire une internationalisation du conflit? Et puis, au-delà des affrontements actuels, pourquoi n'a-t-on jamais réussi à trouver une solution politique dans le Haut-Karabakh? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Tornike Gordadze. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à Sciences Po et ancien ministre géorgien de l'intégration européenne. Avec nous également Gaïd Zmanassian. Bonjour.
Bonjour.
Gaïd Zmanassian qui ce matin va faire à la fois office d'expert sur la question puisque c'est un sujet que vous suivez depuis très longtemps, mais aussi assurer le partenariat avec Le Monde que nous avons chaque vendredi puisque vous êtes aussi journaliste au Monde, Gaïd Zmanassian. Et d'ailleurs, on en profitera pour prendre des nouvelles peut-être de ces deux journalistes du Monde qui hier ont été touchés par des bombardements. Vous nous donnerez des nouvelles d'eux dans quelques instants. D'abord, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des Prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Tunisie, c'est Christophe Cotteret. Bonjour Christophe Cotteret.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, on vous reçoit pour une série de documentaires papier qui ont été publiés sur Intifada, qui sont consacrés au jugement de terroristes en Tunisie. La Tunisie qui a produit un contingent important de djihadistes. On parle de 3000 Tunisiens qui auraient rejoint la Syrie, l'Irak et la Libye depuis 2011. Aujourd'hui, la question de leur retour, de leur prise en charge par la justice se pose de manière extrêmement prégnante, comme ici en France ou en Belgique. D'ailleurs, j'indique que vous avez également en préparation un documentaire qui va être diffusé mardi prochain où il est aussi question de la France et la Belgique. Ça sera sur Arte, donc à 22h20. Alors, comment la justice du côté de la Tunisie prend en charge justement cette question-là? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Ce travail, c'est un très long travail, plusieurs mois, Christophe Cotteret. Vous vous êtes rendu dans le palais de justice de Tunis. Vous êtes allé devant cette salle d'audience numéro 6 où pas moins de 4572 affaires ont été jugées, expliquez-vous, entre septembre 2015 et juin 2018. Quand on entend ce chiffre, Christophe Cotteret, on se dit que ça doit être difficile de rendre justice compte tenu du volume des affaires.
Oui, enfin il faut distinguer deux choses. Il y a la question des revenants, donc on estime effectivement, ce sont les chiffres officiels du président de la République à l'époque, 3000 combattants étrangers tunisiens auraient rejoint Daesh sur zone de conflit, majoritairement en Syrie. On estime qu'un tiers est mort sur place, qu'un tiers serait revenu, un petit tiers, autour de 1000 personnes seraient revenues depuis 2013, et que un bon tiers par contre serait encore dans la nature, redéployer sur d'autres zones. Pour ce qui est, bon, ceux qui nous intéressent en Tunisie, c'est-à-dire ceux qui sont revenus, une majorité des revenants sont revenus entre 2013 et 2017. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce sont des gens qui sont partis, des jeunes qui sont partis de manière très inconsciente, de manière, vous me passerez le mot, mais un peu romantique, et qui ont été déçus de leur expérience, parce que là-bas, les groupes djihadistes se combattaient aussi entre eux, parce que on est en situation de guerre, donc beaucoup reviennent à ce moment-là. Et la majorité des revenants tunisiens sont des gens qui sont revenus, effectivement, très rapidement, dans les années 2013, 2014, 2015. Pour les juger, il y a eu un changement de loi très rapidement, antiterroriste, en 2015, mais ça a été compliqué, effectivement, parce que la Tunisie, pas plus que d'autres pays qui ont eu affaire à ce mouvement massif, n'étaient prêtes à affronter ces questions-là.
Vous dites que globalement, Christophe Cotteret, les droits de la défense sont à peu près respectés, même si c'est loin d'être parfait. Par exemple, vous expliquez, vous parliez de cette loi antiterroriste de 2015. Avec cette loi, le procureur peut refuser la présence d'un avocat dans les 40 premières heures. sachant que c'est un moment décisif parce que c'est précisément le moment où les policiers tunisiens vont essayer d'obtenir des aveux, et je mets les aveux entre guillemets.
Alors c'est ça qui est un peu compliqué, c'est-à-dire que c'est un secret de polichinelle que de dire qu'il y a encore de la torture et sur tout le monde, mais aussi principalement et fréquemment sur des gens qui sont des présumés terroristes ou des présumés ex-djihadistes. Alors c'est pas systématique, on n'est plus à l'époque de Ben Ali où la torture était institutionnalisée, ce sont des pratiques. Moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre pourquoi il y a encore ces pratiques, et ces pratiques c'est parce qu'il y a aussi un manque de moyens. Donc en fait, là, si vous voulez, il y a une tension entre la justice qui, elle, essaye d'évoluer, de fonctionner de la manière la plus transparente possible, avec effectivement des magistrats qui, malgré un manque criant de moyens, font le maximum pour pouvoir juger, un véritable respect du droit à la défense, mais de l'autre côté, un système sécuritaire qui a besoin de donner des garanties aux Tunisiens pour leur sécurité, et n'ont pas de moyens de travailler. Effectivement, ces 48 heures que vous évoquez, les prisonniers ne sont pas systématiquement torturés, mais c'est un des moyens pour les faire parler.
Mais cette tension, elle existe dans toutes les démocraties, entre, au fond, la police et la justice. Sauf que on n'est pas dans n'importe quel pays, on est en Tunisie. On sait combien, à l'époque de Ben Ali précisément, l'appareil policier avait, au fond, la main sur l'ensemble, et la justice ne faisait que suivre les ordres, d'une certaine manière, de la police. Alors, c'est moins vrai aujourd'hui, mais c'est toujours vrai. Il y a, par exemple, un exemple que vous prenez dans votre série de reportages qui est très intéressant, qui est le procès de l'attentat du Bardo de mars 2015, où, rappelons-nous, 22 personnes avaient été tuées. On est exactement dans ce que c'est cette tension-là entre police et justice, où on voit que en réalité la police tient encore les choses. Racontez-nous ce qui s'est passé à ce moment-là.
C'est tout le problème. C'est vrai que dans nos démocraties, le magistrat, le juge, le procureur a le dernier mot. En Tunisie, c'est censé être le cas, mais c'est pas le cas effectivement, parce que les policiers, comme vous le rappelez, interviennent. Alors pour ce qui s'est passé au niveau du Bardo, c'est qu'il y a finalement les enquêteurs se sont retrouvés très vite sous pression politique. Il fallait trouver des coupables immédiatement. Les gens qui ont été arrêtés sont des gens qui n'avaient rien à voir avec l'attentat. Mais le ministre de l'Intérieur de l'époque, Razzali, s'est vanté d'avoir réussi très rapidement à boucler l'affaire. Vingtaine de personnes ont été arrêtées. Ces gens vont être libérés 6 mois plus tard, sans excuse, sans indemnité, en disant... Alors, il y a eu des vagues prétextes, vous étiez un homonyme d'eux, etc., ce qui ne s'est jamais évidemment avéré. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Le procureur à l'époque, quelqu'un d'assez controversé en Tunisie, qui est le procureur Béchir Hakrimi, s'est aperçu qu'il y avait eu torture, et a donc des aveux arrachés sous la torture. Au niveau éthique, c'est terrible. Mais plus terrible encore, c'est que les enquêteurs n'ont pas, pendant ce temps-là, pendant qu'une partie de l'opinion pensait que les auteurs du Bardo avaient été arrêtés, les vrais commanditaires, eux, continuent à courir et vont pouvoir faire l'attentat qui a lieu à Sousse 6 mois plus tard.
39
morts, principalement britanniques. C'est là où ça pose problème. Alors, on peut pas dire, d'un point de vue technique, que si les autres n'avaient pas été arrêtés, il n'y aurait pas eu les attentats à Sousse. Peut-être qu'au niveau de la plateforme, mais en tout cas, ça les a largement favorisés.
S'agissant des avocats qui défendent justement ces personnes qui sont soupçonnées de terrorisme, vous dites que la majeure partie fait partie d'une association qui est baptisée Liberté et Équité.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Et plus généralement, le profil de ces avocats de la défense, qui n'est pas n'importe quel profil.
Tout à fait. C'est à tendance islamiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sous Ben Ali, il y avait différentes associations et différents avocats qui défendaient les présumés djihadistes ou présumés islamistes. Il y a eu quelques cas, notamment en 2007-2008 en Tunisie. Tout le monde défendait à l'époque les accusés salafistes, aussi bien des avocats de gauche que des avocats à tendance islamiste. Liberté et Équité, c'est une association à tendance islamiste, modérée. Il n'y a pas que, il y a aussi des avocats qui ne sont pas islamistes, mais ils ont catalogué à tendance islamiste. Ça a été le vivier d'avocats qui, ensuite, après 2013, après l'assassinat de Choukri Belaïd, une partie des avocats de gauche ne veulent plus, pour des raisons politiques, défendre des présumés djihadistes ou des présumés terroristes. Donc ce sont principalement les avocats à tendance islamiste. Alors attention, je précise, certains ont parfois une philosophie salafiste, mais tous condamnent, et je pense que c'est une condamnation...
sincère.
À la fois sincère, voilà, condamne le meurtre de civils ou le terrorisme. Donc il ne s'agit pas de ça. Ce sont des gens qui peuvent avoir une proximité intellectuelle avec les mouvements salafistes, mouvements salafo-djihadistes.
Et est-ce qu'ils arrivent à remporter des victoires judiciaires ?
Oui, souvent, parce que les dossiers sont montés à partir d'aveux, donc c'est très compliqué. Les Tunisiens n'ont pas de renseignements extérieurs, donc dépendent de renseignements de services d'intelligence d'autres pays. Ça ne permet pas forcément de judiciariser des affaires, donc pour ce qui est aussi bien des revenants que pour la menace endogène, les dossiers sont quasiment vides. Donc vous avez quelques... Oui, il a été voir un profil Facebook, il a mis un like sur une décapitation, mais souvent ça ne va pas plus loin que ça. Mmh. Donc, effectivement, ce qui arrive d'abord devant le juge, ce sont des... le juge, la première chose, le juge d'assises demande, est-ce que vous avez été... est-ce que vous avez fait des aveux sous la contrainte ? Et assez régulièrement, oui, mes aveux ont été faits sous la contrainte, ce qui fait tomber le dossier.
Quittons les couloirs du palais de justice à proprement parler, que vous avez arpenté pendant des mois. D'ailleurs, vous étiez bien seul. Vous racontez qu'au fond, personne ne s'intéresse à tout cela. Il n'y a aucun journaliste, aucun observateur, même du côté des Tunisiens. C'est quelque chose qui intéresse assez peu. Quittons ce palais de justice pour regarder ce qui se passe dans les sphères plus politiques. La question du retour, elle a été très prégnante ici en France. Quelle est la posture du gouvernement tunisien de ce point de vue-là ? Est-ce que on a organisé des retours massifs ? Est-ce que précisément on a rejeté ce principe d'un retour massif ? Est-ce qu'on fait au cas par cas ? Enfin, comment on s'arrange ?
Il y a eu des retours massifs, comme je le précisais tout à l'heure, entre 2013-2017. À l'époque, le président Moncef Marzouki avait décidé d'une amnistie pour ceux qui rendaient les armes. Une partie de ceux qui ont été amnistiés sont retournés, en fait, combattre en Syrie pour des raisons un petit peu longues. Ce qui est pour les plus récents, effectivement, c'est au compte-gouttes, c'est-à-dire que voilà, je crois qu'il y a eu 2-3 l'année dernière. On parle de quelques personnes qui intéressent la justice tunisienne pour pouvoir avoir des informations sur les réseaux tunisiens. Donc c'est la sélection. Après, il y a une subtilité effectivement dans la constitution tunisienne, c'est-à-dire que on ne peut pas empêcher le retour des ex-combattants et ex-combattantes. C'est pas possible. Par contre, la Tunisie peut ne pas les réclamer. Et c'est ce qu'elle fait. Elle ne les réclame pas.
Il y a une décision d'ailleurs d'un conseil de sécurité qui a été rendue récemment, fin 2019, qui va justement dans ce sens-là.
Absolument, tout à fait.
L'autre crainte, évidemment, des autorités tunisiennes, elle concerne le risque de prosélytisme des anciens combattants dans les prisons. C'est d'autant plus une crainte qu'en réalité, c'est quelque chose qu'on a déjà bien connu en Tunisie. C'est-à-dire, on a déjà eu des groupes djihadistes qui se sont formés à partir de prisons tunisiennes. On a tiré les leçons de tout ça, évidemment.
Tout à fait. Les leçons n'ont pas été retenues. C'est ça le problème. Alors après, c'est aussi, encore une fois, c'est une question de moyens. Mais effectivement, il y a eu du prosélytisme quand des gens comme Abou Riyad, qui est impliqué dans l'assassinat à l'époque, au début des années 2000, du commandant Massoud en Afghanistan, est emprisonné en Tunisie. Effectivement, il va avoir tout un travail de prosélytisme avec des groupes au milieu des années 2000. Et ça, ce qui va être, disons, le noyau dur d'Ansar Sharia, après en 2011, avec les conséquences que l'on connaît.
Les leçons n'ont pas été tirées, mais on a conscience de cette chose-là.
Alors on a conscience, sauf que c'est massif. C'est qu'aujourd'hui, pour avoir discuté, les gardiens de prison, etc., ne savent pas qu'un tel a été condamné pour terrorisme, parce que c'est la loi terrorisme et blanchiment. Donc c'est terrorisme et blanchiment. Donc ils finissent par l'apprendre parce que tout le monde se parle dans les prisons. Mais finalement, il n'y a aucun programme de réhabilitation. Il n'y a pas de programme. Certains sont mis à l'isolement, mais là on parle de quand même plusieurs milliers de personnes. Donc ça reste très très obscur pour l'instant, les politiques restent très obscures. Quand je dis très obscur, certaines personnes sont concernées. J'ai entendu des psychologues, le responsable à l'époque de la commission de lutte contre le terrorisme. Tout le monde a conscience de ce phénomène, mais personne n'a de solution aujourd'hui.
Non seulement on n'a pas de solution, mais en réalité, ce que vous découvrez, c'est que ces prisons sont de véritables machines à radicaliser. Vous êtes intéressé à la prison de Mornaga, on est à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Tunis, et vous avez interrogé notamment un homme qui s'appelle Moez Ali, qui est président d'une association qui accompagne justement les famille et qui s'intéresse à cette question de la prévention de l'extrémisme. Et lui, il vous dit on rentre pour un joint, on sort terroriste.
Absolument. Ce sont ces mots et on peut le voir très clairement. Enfin, je veux dire, quand vous mettez encore des jeunes en prison qui ont 16 ans, 17 ans, on vous prend avec un joint, on vous met un an en prison, ou des soupçons d'homosexualité, ou pour un chèque sans provision, en sachant avec les difficultés économiques que certains peuvent vivre en Tunisie, vous emprisonnez les gens pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans dans des circonstances, effectivement, ce sont des proies très faciles pour des gens qui sont très mal intentionnés. Et ça continue.
Christophe Cotteret, chapitre 5, parce que c'est en chapitre, hein, je l'ai pas dit tout à l'heure, vos reportages documentaires. Il y a 5 chapitres. On va aller au chapitre 5, qui s'ouvre sur la figure de Mohamed Dia Arab, qui un jour de septembre 2018 se rend devant un commissariat. On a une quarantaine de kilomètres de Tunis, qui s'asperge d'essence, qui s'immole sous le regard des policiers, qui va rentrer sous les flammes à l'intérieur du commissariat, puis finalement ressortir pour se consumer sur le trottoir devant le commissariat, devant une foule absolument ébahie. Il va mourir évidemment le lendemain. Et la raison de son suicide, c'est en tout cas ce que dit sa famille, c'est que cet homme était fiché S17. On sait ce que ça veut dire chez nous, être fiché S. Est-ce que on peut comparer les choses? Jusqu'où est-ce que la comparaison avec le fichier S et le fichier S17 fonctionne?
Alors, fichage, c'est le fichage 17, en fait, qui est appelé S17, justement, en référence au fichage S français, en fait. D'accord. Mais c'est pas le terme technique en Tunisie. Oui, il y a des similitudes. C'est-à-dire que des milliers de personnes, les avocats estiment jusqu'à 100 000 personnes seraient fichées S17, S1, donc S19. Ça reste très, très confus. Même les associations n'ont pas d'informations là-dessus.
Sur les critères, vous voulez dire?
Sur les critères, ça ne passe pas par des décisions de justice. Donc ce que demande le procureur, ce que demandent les juges, c'est que ça puisse passer par des décisions de justice. Ce sont des fiches de renseignement, mais qui sont des fiches de renseignement contraignantes, totalement obscures. Et je crois que même au ministère de l'Intérieur, ils ne sont plus très sûrs de qui est S17 ou pas S17. C'est une contrainte pour tout le monde, parce que effectivement, c'est un fichage S17. Tout se sait en Tunisie. Vous savez, votre voisin dit « Ah, mais lui, ça se trouve, c'est un terroriste. Ça se trouve, ça l'est pas. » Donc, c'est une méfiance globale.
Vous pouvez vous retrouver S17 suite à une dénonciation d'un voisin.
Alors, vous pouvez être S17 parce que vous avez combattu en Syrie, vous revenez, enfin, vous êtes proactif quelque part, ou vous pouvez avoir un cousin au troisième degré qui est parti en Libye, et puis on estime que vous avez pris un café avec lui 6 mois auparavant, et donc vous êtes S17. Enfin, c'est très très large, ça couvre énormément de monde, et c'est très contraignant.
Sauf que la grande différence, pardon, avec la France, c'est que normalement, en France, seule l'administration sait qui est fiche S ou pas. En Tunisie, c'est très différent. Vous racontez par exemple que cet homme, chaque semaine, la police débarquait dans sa maison, saccageait tout, menaçait la famille, tout ça évidemment sous le regard des voisins. Dans ces conditions, tout le monde sait que vous êtes fiché. Ça devient quasiment impossible d'imaginer trouver un emploi, d'imaginer de se réinsérer dans sa communauté.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est une contrainte pour tout le monde. Alors évidemment pour la famille, et bien sûr pour ce jeune, mais y compris, et c'est là où j'insiste dans mon article, y compris pour la police, parce que surveiller des dizaines de milliers de gens S17, qu'est-ce que ça veut dire? C'est extrêmement chronophage. Les policiers n'ont pas les dossiers eux-mêmes, donc c'est-à-dire qu'ils surveillent des gens, ils ne savent pas s'ils sont vraiment dangereux, pas dangereux. Donc cette intimidation, c'est une façon de dire, regardez, on est là, on vous a sous surveillance. Il est évident que si un de ces fichiers S17 commet un attentat dans Tunis, les premiers qui seront visés, qui on reprochera cette faille sécuritaire, ce sont les policiers de la ville. Donc effectivement, tout le monde est sous pression. Donc c'est, moi je pense plus à une organisation, j'ai pas envie de mettre sur le dos de policiers tunisiens qui essaient au mieux de faire leur travail, même s'il y a des dérives, même s'il y a des pratiques qui ne sont pas acceptables, c'est plus le système, c'est un système, exactement.
Oui, et puis par ailleurs, ce genre de fichage, normalement, devrait être, en théorie, en tout cas, interdit en Tunisie. C'est, vous l'expliquez très bien dans votre article, contraire à l'article 24 de la Constitution, sauf que pour respecter une Constitution, il faut une Cour constitutionnelle, et celle-ci n'a jamais été mise en place.
Alors, s'il y a bien quelque chose qui a fait consensus jusqu'ici, depuis le vote de la Constitution, c'est le fait de ne pas amener une cour constitutionnelle à devoir trancher ce genre de questions, effectivement.
Merci beaucoup, Christophe Cotteret. Je rappelle donc pour les auditeurs cette série de documentaires papier qui ont été publiés sur Inkifada. Je dois dire vraiment, Christophe Cotteret, que c'était... je suis assez admiratif du travail qui a été fait, non seulement pour le contenu, évidemment, c'est... Je ne l'ai peut-être pas dit, mais ça fait des années que vous vivez en Tunisie, donc évidemment le travail long, ça paye. Mais en plus, ça a été remarquablement mis en ligne. Il y a des très beaux dessins qui ont été faits par Zed,
effectivement.
Qui est un dessinateur tunisien, on avait eu l'occasion de l'entendre ici à ce micro. Donc c'est sur inkifada.com, il faut y aller. C'est d'ailleurs, vous me disiez, l'un des rares médias tunisiens aujourd'hui parfaitement libre et aussi...
Et puis qui fait un travail dans... profondeur, le travail d'investigation en profondeur, voilà. Et effectivement, les dessins de Z sont vraiment magnifiques. Il y a eu un gros travail de sa part et un gros travail de la part d'Inkifada pour réaliser aussi, à partir des rushs de mon film, des podcasts qui complètent ces articles.
Ouais, parce qu'il y a aussi des extraits sonores, je ne l'ai pas dit. Non, il faut vraiment y aller, c'est remarquable, on le mettra sur la page de Culture Monde, merci infiniment. Puis je dis également que vous avez un documentaire qui va être diffusé sur Arte, ça sera mardi 9 octobre.
6 octobre, pardon.
22h20, Daesh, le dilemme de la justice. Merci infiniment, Christophe.
Merci.
On vous laisse rentrer du côté de la Tunisie. Merci beaucoup. La Tunisie, on prend la direction du Haut-Karabakh, de l'escarmouche à la guerre ouverte, c'est la question qu'on se pose ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Depuis dimanche dernier, le Caucase est au cœur des préoccupations avec cette région séparatiste du Haut-Karabakh, redevenue le théâtre d'affrontements entre les forces séparatistes soutenues par l'Arménie d'un côté et l'armée azerbaïdjanaise de l'autre, soutenue elle par la Turquie. Si cette région est au cœur d'un différend depuis plus d'un siècle et que les tensions y sont récurrentes, ce qui inquiète aujourd'hui, c'est l'intervention d'autres acteurs, au premier rang desquels la Turquie.
Selon nos vraies informations, des instructeurs militaires et des hauts responsables militaires de Turquie sont maintenant présents au poste de commandement de l'Azerbaïdjan. Dans certaines zones, ils dirigent même des actions de combat. Les avions F-16 de l'armée de l'air turque ne participent en aucun cas au combat. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent difficilement de cacher quelque chose grâce aux moyens de surveillance et à la surveillance satellite. C'est pourquoi il est très facile de comprendre qu'il s'agit là d'une nouvelle provocation.
Voilà, donc on avait d'abord Nikol Pachinian, premier ministre arménien, et puis Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan. Que fait vraiment la Turquie dans ce conflit? Comment la Russie pourrait elle aussi tenter d'intervenir? Que peut faire aussi l'Europe? Parce qu'il faut le craindre, une régionalisation du conflit. On a invité ce matin Tornike Gordadze, merci encore d'être avec nous ce matin. Et on a également avec nous Gaïd Zminassian, qui est enseignant à Sciences Po, qui suit cette question-là depuis très longtemps, et qui par ailleurs est journaliste au Monde, qui est notre partenaire tous les vendredis. Gaïd Zminassian, on va commencer avec vous parce que hier on a appris que deux journalistes du Monde avaient été pris dans des bombardements alors qu'ils se trouvaient avec des civils. Ils ont été transportés à l'hôpital. Quelles sont là les dernières nouvelles qu'on a, Gaïd Zminassian?
Merci de poser cette question et je vais être bref par discrétion. Mais ils vont mieux, on est soulagés. Nos collègues, les deux reporters sont sur le chemin du retour. Ils devraient arriver en France aujourd'hui. Voilà, dans de bonnes conditions.
Dans de bonnes conditions. Le pronostic vital n'est pas engagé.
Vraiment pas.
Voilà une bonne nouvelle. Tornike Gordadze, on va commencer on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite et parler de la question de la Turquie. On l'entendait parce qu'elle est au cœur, évidemment, de ce qui est en train de se passer dans le Haut-Karabakh. On a vu, ces dernières années combien la Turquie n'hésitez pas à interférer dans un certain nombre de conflits. On a vu la Syrie, on a vu la Libye. Est-ce que il faut acter le fait que là, ça y est, la Turquie est en train d'ouvrir un nouveau front dans le Haut-Karabakh, qui jusqu'ici, ces dernières années, il y avait régulièrement des escarmouches. On pense à 2016, on y reviendra tout à l'heure. Mais jusqu'ici, c'était un sujet un peu qui restait local. Là, ça constituerait une vraie nouveauté. Ça y est, la Turquie a ouvert un nouveau front.
Le conflit du Haut-Karabakh n'a jamais été vraiment strictement local. Il y a eu d'autres puissances régionales qui avaient leur mot à dire et qui intervenaient indirectement. Je pense surtout à la Russie depuis des années, qui d'ailleurs intervient dans d'autres conflits de la zone ex-soviétique. Et maintenant, au-delà, on a vu aussi la même Russie intervenir en Syrie, en Libye et ailleurs. Donc la Turquie, oui, c'est indéniable. C'est un pas de plus. Je veux dire, la Turquie a toujours soutenu l'Azerbaïdjan dans ce conflit avec l'Arménie. Dès le début du conflit, dès 1993, la Turquie a fermé la frontière avec l'Arménie à cause du conflit du Haut-Karabakh en déclarant sa solidarité avec l'Azerbaïdjan. Mais dans les années 90, il y a une différence néanmoins entre la Turquie des années 90 et la Turquie d'aujourd'hui. À l'époque, le soutien était plus politique, symbolique. Il y avait déjà une coopération militaire, l'envoi des spécialistes turcs pour entraîner l'armée azerbaïdjanaise, y compris les forces spéciales. Mais là, on voit, c'est un cran au-dessus, parce que là, depuis 2016, vous avez évoqué, on y reviendra peut-être, l'Azerbaïdjan a approfondi sa coopération militaire avec la Turquie, y compris au niveau de l'achat de l'armement et du matériel. Là, on voit l'implication de la Turquie qui est d'une autre nature, certainement.
Alors justement, regardons cette nature et diminution du soutien turc. Il y a d'abord eu un premier message du ministère russe des Affaires étrangères qui a parlé de combattants qui étaient venus de la Syrie et de la Libye. Et puis hier, Emmanuel Macron a confirmé précisément que des combattants étaient bien passés par Gaziantep, a-t-il précisé, ville turque, pour aller soutenir l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui très concrètement de ce soutien matériel humain de la Turquie dans ce conflit ?
Pour corroborer ce que vient de dire Torniquet, j'irai un petit peu plus loin en termes de techniques et d'éléments. Par exemple, cet été, au mois d'août, il y a eu des manœuvres conjointes entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, des manœuvres importantes avec un soutien aérien d'une aviation turque composée de 4 F-16 qui a été stationnée à l'aéroport de Ganja, qui est près du Haut-Karabakh. Et c'est un des avions F-16, un de ces 4 avions, puisqu'ils ne sont pas rentrés au mois d'août. À Ankara, on l'aurait su, qui a frappé le SU 25 arménien. Donc le démenti de la Turquie tombe d'un coup, ça fait pchit comme on dit, puisque tout le monde parle aujourd'hui de ces manœuvres qui ont eu lieu au mois d'août. Deuxièmement, il y a effectivement des djihadistes, c'est pas nouveau, c'est vraiment pas nouveau. En 2016, il y en avait déjà. On ne me croyait pas trop à l'époque, mais bon, c'est comme ça. Mais en 2016, il y en avait déjà. En 91, 92, il y en avait déjà des djihadistes pendant la guerre du Karabakh. Mais cette fois-ci, ils venaient d'Afghanistan. C'était le groupe d'Ekmatyar. Et là, ça prend une proportion plus grave, plus dangereuse. On parle de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers qui viendraient de Syrie.
Plusieurs milliers de combattants extérieurs.
Il y a une fourchette qui fait entre plusieurs centaines et plusieurs milliers. D'accord. On ne sait pas trop. Alors comment on peut déterminer ? D'abord, il y a des témoignages de volontaires qui sont déçus d'être sur place parce qu'ils disent on ne connaît pas le terrain, on s'en fout de nous, etc. Ensuite, il y a des décès, il y a des gens qui reviennent dans leur pays d'origine et qui sont enterrés en Turquie ou ailleurs. Et donc le journal Le Monde a d'ailleurs enquêté sur cette problématique.
Pardon, qui les envoie? La Turquie? Qui les paye? La Turquie? L'Azerbaïdjan?
Alors, je suis pas dans le secret de Bakou d'Ankara, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose autour d'officines turques, azerbaïdjanaises, etc. Mais c'est tout le lien avec la connivence avec le terrorisme international qui est en jeu. Et autre élément hyper grave, c'est que là, on n'est pas dans le cadre d'une guerre civile comme en Syrie ou en Libye. Là, on est dans le cadre d'une guerre avec deux armées constituées, deux États souverains, qui appartiennent à des alliances différentes, l'une avec la Turquie, l'autre avec la Russie, l'OTSC. Et la Turquie est membre de l'OTAN, donc ça prend une proportion beaucoup plus. Quand vous dites qu'on est au bord du conflit régional, on est déjà dedans, voire international, on est déjà dedans.
Torniquet Gordadze, on est déjà dans le conflit régional, international, et la question à laquelle, je sais que vous voulez réagir, mais la question à laquelle j'aimerais aussi vous entendre répondre, c'est jusqu'où la Russie est prête justement à s'engager dans ce conflit ?
Ça fait plusieurs questions d'un coup. Je vais juste revenir très brièvement sur la présence des djihadistes. Donc évidemment, ces personnes, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, c'est confirmé. Il y a différentes sources concordantes qui parlent de ces gens-là. Mais moi, le qualificatif du djihadiste me pose un petit problème parce que, pour plusieurs raisons. Ces gens-là sont plutôt, pour moi, plutôt des supplétifs, des mercenaires qui sont au service de la Turquie. On les a vus en Syrie, on les a vus en Libye, etc. Mais tout djihadiste qui se respecte, en quelque sorte, pour eux, déjà, l'Azerbaïdjan est un pays chiite. Alors, ces gens-là sont tous des sunnites extrémistes. S'ils sont tous sunnites extrémistes, l'Azerbaïdjan n'est pas tout à fait le pays qu'ils aimeraient aider, premièrement. Deuxièmement, l'Azerbaïdjan est un État laïque qui traite assez mal ses propres islamistes. Bon, après, je sais qu'ils sont là, surtout, ils ont un contrat peut-être avec la Turquie, et c'est la Turquie qui les dispatche dans cette région, mais la plupart de ces gens-là ressemble quand même à des mercenaires ou à des supplétifs que à des vrais djihadistes idéologiquement prêts. D'ailleurs, il y a un représentant de Tahrir al-Sham qui avait dit les vrais djihadistes ne devraient pas y aller parce que c'est pas notre conflit.
Ne devraient pas aller au Haut-Karabakh.
Devraient pas aller au Haut-Karabakh, c'est un régime laïque, les deux régimes sont des régimes laïques et on devrait se sacrifier à Dieu et non pas au régime sur place. Bon, ça c'est pour refermer la frontière pour un petit peu nuancer ce que disait.
Non, je suis très nuancé, Antoniquet, s'il te plaît.
Non,
parce que nous on a quand même des preuves au journal, et tu le liras aujourd'hui, qu'il y a des groupes djihadistes constitués qui sont, alors peut-être ce sont des sunnites, mais la Turquie est sunnite et elle soutient les djihadistes sur place en Syrie et en Libye. L'Azerbaïdjan est un pays turcophone. L'Azerbaïdjan se voue...
Non, mais ça... C'est...
Attends, s'il te plaît. L'Azerbaïdjan est complètement inféodé à Ankara, sur ce terrain-là, et donc tu ne peux pas dire que... Bien sûr qu'il y a sûrement des rebelles qui ne sont pas des djihadistes, mais il y a aussi des djihadistes, et c'est ça, et pour moi c'est à la limite c'est même pas le problème. Le problème c'est la connivence entre Turquie, Azerbaïdjan, et cette faculté que la Turquie en ce moment d'essayer de répandre partout des feux pour avoir une stratégie globale d'instrumentalisation du phénomène djihadiste pour ensuite se poser en position médiane pour un processus diplomatique de résolution d'un conflit ou processus militaire.
Je remets absolument pas en
la question que je posais sur
entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, c'est une évidence. L'emploi des groupes, des proxys, c'est quelque chose qui se généralise d'ailleurs dans ce conflit, mais aussi dans d'autres conflits. On voit d'autres puissances comme la Russie utiliser les proxys un petit peu partout. Donc malheureusement, oui, on est dans un. C'est pour ça que je reviens à votre question par rapport à la nature régionale ou internationale du conflit. Certes, c'est un conflit régional, voire international, mais les puissances régionales telles que la Russie et la Turquie ils feront tout pour éviter de s'affronter directement entre la Turquie et la Russie.
Alors, ils vont utiliser c'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir, Tanguy Gordadze. Au début des années 2000, la Russie met en place ce qu'on appelle l'organisation du traité de sécurité collective, qui est une organisation politico-militaire dans laquelle on retrouve l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le Tadjikistan. À noter que l'Azerbaïdjan n'est pas dedans, mais là était pendant un moment, elle a fini par en sortir en 99, au tout début. Mais précisément, l'objet de cette organisation-là, c'est de garantir la souveraineté et de venir en aide éventuellement à l'un des États, et en particulier lorsque son intégrité territoriale est mise en cause. Est-ce qu'on pourrait imaginer là que la Russie vienne directement en aide, militairement, pour aider donc, l'Arménie.
Il faut être un petit peu technique. Voilà. Vous avez très bien expliqué ce que c'est que ce traité qui garantit normalement l'intégrité territoriale de l'Arménie. Mais il s'agit pour l'instant de la guerre au Karabakh ou autour du Karabakh, qui n'est pas directement couvert par le traité. Donc, si le territoire de l'Arménie est attaqué par
il est attaqué.
Chacun son tour.
Je vais vous donner la parole. Martenis, il est attaqué.
Je vais vous donner la parole.
Donc, la Russie devrait s'impliquer directement dans le conflit si le territoire strictement arménien et non pas le Karabakh et les régions autour est attaqué par l'Azerbaïdjan et par la Turquie. Donc, c'est pour ça que je pense que la Turquie, en tout cas, essaiera d'être extrêmement prudent avant d'attaquer le territoire strictement arménien. Ils participeront indirectement, ils feront tout pour aider l'Azerbaïdjan de reprendre plusieurs régions autour du Karabakh, pour montrer justement qu'ils soutiennent l'Azerbaïdjan, pour renverser la tendance qui existe. Et ils hésiteront, pour moi, avant de frapper directement le territoire arménien.
Voilà donc, Gaïdmination, finalement, là, Moscou se cacherait d'une certaine manière derrière le droit international, parce que du point de vue du droit international, le Haut-Karabakh, effectivement, est dans les limites de l'Azerbaïdjan. Alors, ça marche pour le Haut-Karabakh, mais quand, par exemple, on parle de l'Ukraine et du mémorandum de Budapest, là, la question de l'intégrité territoriale n'est pas forcément un problème pour Moscou. Mais enfin, en tout cas, sur ce point-là, du point de vue du droit international, Moscou pourrait...
Alors, je vais revenir sur le droit international, mais je voudrais quand même préciser quelque chose. Vardenis, qui est une ville à l'est de l'Arménie, qui est proche du lac Sevan, qui est en territoire de la République d'Arménie, a été bombardée par l'artillerie donc azerbaïdjanaise.
C'est en Arménie.
C'est en Arménie. Vous regardez une carte, c'est en Arménie. Donc et d'ailleurs, Erevan a tout de suite fait état de ces bombardements et la Russie était plutôt dans une position inconfortable. Je reviendrai sur la Russie. Autre chose qui s'est passée au mois de juillet dans la région de Davouche, au nord-est de l'Arménie, on est très loin du Karabakh. Il y a eu des affrontements pendant à peu près entre 24 et 48 heures. Des affrontements qui sont encore une fois, et le président français l'a dit là récemment à propos de cette guerre qui a commencé dimanche, où on sait qui a commencé le conflit. Au mois de juillet, c'est la même chose. Attaque de l'Azerbaïdjan sur le territoire de l'Arménie, soutien immédiat de la Turquie. Ankara réagit en disant oui, il faut en finir avec cette affaire, il faut que les Arméniens sortent du Karabakh, etc. Ça a été d'ailleurs une sorte de petit test pour l'armée azerbaïdjanaise avec la solidarité de la Turquie. Et il y a eu une réponse très forte, peut-être même disproportionnée de la part de l'Arménie, mais on ne peut pas dire que le territoire arménien n'est pas touché, n'est pas impliqué dans cette guerre. L'Arménie n'a pas intérêt à rentrer dans cette guerre. Elle veut faire comprendre, et je reviens sur la notion du droit, elle veut faire comprendre que c'est un conflit entre la République du Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan, elle, c'est la position inverse. Elle a tout intérêt à dire que c'est un conflit entre deux États, l'Arménie, et la Turquie. Mais, et l'Azerbaïdjan. Alors, pourquoi?
Pardon, pour suivre cette position, Gaïd Minassian, il suffirait, si je puis dire, à Erevan de ne plus soutenir les séparatistes.
Mais, vous êtes dans une situation d'hostilité maximale. Moi, j'essaye de comprendre. Je comprends l'Azerbaïdjan, parce que question d'honneur, etc., et des réfugiés. J'essaye de comprendre le jeu arménien, le jeu turc, le jeu russe, etc. Le jeu arménien, c'est quoi? C'est un État qui s'est constitué en 1918, qui est indépendant en 91, comme la Géorgie et l'Azerbaïdjan, et qui est entouré de deux voisins très hostiles, négationnistes, parfois racistes pour l'Azerbaïdjan, mais négationnistes. Et récemment, donc, je vous ai parlé de ces manœuvres, turco-azéri, il y avait sur l'écusson des soldats qui étaient en exercice militaire, il y avait une carte de la Turquie et de l'Azerbaïdjan en territoire continu, donc comme s'il y avait une unification, l'Arménie était rayée de la carte, il n'y avait pas d'Arménie. Donc on est dans cette idée pan-turque, et c'est là-dessus aussi qu'il faut réfléchir sur comment lutter contre cette pathologie. Mais pour en revenir sur le droit international, vous avez deux normes du droit qui s'affrontent. Vous avez d'un côté l'intégrité territoriale, c'est la position de l'Azerbaïdjan. Et vous avez de l'autre côté le droit à l'autodétermination, c'est la position de l'Arménie. Et donc l'Arménie soutient le Haut-Karabakh dans cette affaire d'autodétermination. Mais, important, l'Arménie, dans les quatre résolutions du Conseil de sécurité qui ont été votées en 93, l'Arménie n'est pas citée une seule fois. Et on lui demande d'user de son influence auprès des autorités de facto du Karabakh. C'est-à-dire que l'Arménie se porte garant de la sécurité physique des Arméniens. Bah, on peut comprendre pourquoi. Ils ont le droit aussi de se défendre. Donc moi, je suis pas là pour un discours va-t-en-guerre, etc. Je veux juste la paix et le retour à la négociation. Mais ce qui est important, c'est le jeu de la Russie, qui est très ambivalent, qui est même malsain.
Alors, justement, Tornike Gordaze, et je vais aussi une fois encore, parce que je vois bien que vous vouliez réagir, mais moi, je dois aussi faire avancer les choses. Et on pourrait s'interroger, effectivement, sur une issue politique, et avant l'issue politique, en tout cas, au moins un terme à ce conflit-là qui se déroule en ce moment. Parce que, fait quand même assez rare, et Paris, et Washington, et Moscou ont appelé à un cessez-le-feu rapide. C'est quand même pas tous les jours que ces trois capitales sont d'accord sur un sujet. La question est donc, dans quelle mesure est-ce que cette pression internationale, et en particulier de ces trois acteurs aussi importants, pourrait mettre un terme rapidement à ce conflit?
Très bonne question. Juste pour revenir 30 secondes. Le conflit au mois de juillet, c'était à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, une partie de la frontière qui est très mal déterminée, qui est inhabitée, heureusement. C'est juste pour revenir, la frontière à cet endroit-là n'est pas déterminée.
Mais si elle est déterminée, les villages qui ont été touchés, ils sont en Arménie, ils sont pas en Azerbaïdjan.
Je vais revenir.
Je te dis pas qu'il n'y a pas eu de bombardement de l'autre côté. Je te dis juste de rectifier la vérité. Je m'en fous, moi, de savoir qui a fait quoi. Moi, je regarde les faits. Les faits sont là, Tornike.
Tornike et Gornetsk.
On va passer à votre question sur le cessez-le-feu et donc l'appel des États-Unis, de la Russie et de la France pour arrêter le conflit. Moi, au départ, quand ces hostilités ont éclaté, j'espérais et beaucoup d'observateurs espéraient que ça allait s'arrêter assez rapidement parce que, en général, dans cette région, il y a, quand le conflit éclate, les puissances régionales arrivent et ça prend plusieurs jours pour arrêter le conflit. Et c'est dans cette petite fenêtre qui s'ouvre que les acteurs locaux essayent de gagner le maximum de terrain pour inverser le rapport de force dans les négociations. Là, je suis un petit peu plus pessimiste parce que ça a l'air parti pour plus longtemps, justement parce que ces puissances telles que les États-Unis, l'Union européenne, n'ont pas grand-chose ils ont beaucoup moins d'influence dans cette région que dans les années 90, parce que là, la Russie et la Turquie ont beaucoup plus, énormément de plus d'influence dans cette région que l'Union européenne et les États-Unis. Donc, tant que la Russie et la Turquie ne se mettront pas d'accord pour arrêter le conflit, et je rejoins ce que disait Gaïd tout à l'heure par rapport à la Russie, le comportement de la Russie était un petit peu étrange en ce moment. On a l'impression qu'il laisse un petit peu l'Azerbaïdjan gagner du terrain pour éventuellement, ils reviendront à un moment donné, et ils deviendront plus vocales à un moment donné si l'Azerbaïdjan va trop loin, je pense. Pour l'instant, ils sont pas aussi actifs, n'apparaissent pas aussi actifs en tout cas que la Turquie. Mais c'est pas dans leur intérêt à ce que l'Azerbaïdjan reprenne non plus toute la région et passe à l'offensive et attaque l'Arménie ou même reprenne la totalité du Karabakh. Je pense que quelque part, je peux me tromper, mais la Russie veut montrer aussi à l'Arménie qu'il y a un gouvernement pro-démocratique qui est arrivé au pouvoir après la révolution de 2018, que il devrait pas oublier que le patron dans la région, c'est la Russie. Et à la limite, il serait même un petit peu content si ce gouvernement est affaibli à la suite de cet affrontement.
Alors, j'interviens juste dans le prolongement. C'est pas par hasard, je réponds à votre question sur l'implication des trois principales capitales, Paris, Moscou et Washington. Ce qu'a oublié de dire Torniquet, c'est qu'en fait, c'est pas par hasard que ce sont ces trois pays. Pourquoi ? Parce que il copréside le groupe de Minsk, qui est chargé par l'OSCE de rétablir la paix dans la région. Donc forcément, ils sont en position privilégiée pour essayer d'intervenir et appeler tout le monde au calme. Et la France s'est démarquée de manière assez forte depuis ces derniers jours, puisque non seulement elle a caractérisé l'identité de l'agresseur, puisqu'elle a dit que les tirs venaient d'Azerbaïdjan, du moins on peut se poser la question, est-ce que ça veut dire que l'agresseur, c'est l'Azerbaïdjan, et en termes de droit international, ça dit quelque chose de caractériser quelqu'un comme agresseur? On est obligé d'en rendre des comptes. Et deuxièmement, pour la Russie, effectivement.
Pardon, ça c'est seulement la rhétorique de Paris. Hein.
Oui, mais justement. Pas celle du tout de Moscou. Non, mais justement, et ça c'est plutôt pour c'est adressé à l'Azerbaïdjan et adressé aussi la deuxième partie du message du président Macron était adressé à la Turquie sur l'implication des djihadistes. Oui. Histoire de dire, je ne suis pas naïf, je suis le sujet et je suis en position privilégiée et légitime au sein de la présidence du groupe de Minsk. Mais par rapport à la Russie, en fait, la Russie est face à un dilemme. La Russie est embêtée dans cette affaire parce que soit elle continue sa rhétorique anti-occidentale et elle joue le jeu de la Turquie, mais elle prend le risque de voir une djihadisation du conflit et avec un risque de contagion sur la Tchétchénie et l'Iran de l'autre côté avec un conflit ouvert entre l'Iran et les djihadistes sunnites. Et elle dégage le groupe de Minsk, soit elle privilégie le groupe de Minsk, c'est-à-dire la relation avec Paris et Washington, mais elle écarte la Turquie du jeu. Mais elle prend le risque de voir la Turquie provoquer la Russie en Syrie, en Libye, ou peut-être même ailleurs, pourquoi pas dans les Balkans, dans les années qui peuvent venir. On en est là, et la Russie, effectivement, elle fait comprendre à l'Azerbaïdjan et à Erevan, à l'Arménie, que c'est elle qui détient un petit peu le leadership de la région. C'est ce qu'elle fait comprendre aussi à Paris et à Washington, et elle est embêtée avec la Turquie parce qu'elle ne veut pas voir son agenda contrarié. Or, la Turquie fait tout pour venir dégrader la situation, comme elle l'a fait en Libye et comme elle l'a fait en Syrie. Donc, on est dans une situation très dangereuse. Je suis d'accord avec Torniquet quand il dit qu'on est dans une phase plus dangereuse qu'avant, et je pense qu'il faut s'inscrire dans le temps long avec des accalmies.
Voilà. Torniquet, Gordadze, et puis ensuite on fait une petite pause en dessin.
En 30 secondes, ce conflit est également la conséquence de l'affaiblissement général du multilatéralisme de l'inefficacité de l'OSCE qui pendant 28 ans n'a pas réussi à avancer d'un pouce pour résoudre ce conflit, et aussi du retrait des Occidentaux de la région. Les États-Unis sont beaucoup moins actifs que dans les années 90 où ils avaient proposé, au début des années 2000, ils avaient proposé un plan de paix. Ils avaient mis tout leur poids là-dedans. Et il y a eu d'autres plans de paix de l'OSCE, les principes de Madrid, etc. Bon, maintenant, on les voit vraiment bien en recul par rapport à ces deux puissances régionales, la Turquie et la Russie, qu'on voit extrêmement agressives ailleurs. Donc, c'est la conséquence un peu aussi de cette situation plus générale.
On est avec vous, Tornike Gordadze, et vous, Gaïd Zmination, autour de ce conflit dans le Haut-Karabakh, de l'escarmouche à la guerre ouverte. C'est la question qu'on se pose ce matin, comme chaque vendredi. On a un partenariat avec Cartooning for Peace. On choisit un dessin en fonction de l'actualité du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown!
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux!
Assis!
Bonjour Mélanie.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Et alors ce matin Mélanie, un dessin qui nous rappelle que le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est aussi une confrontation entre deux hommes, deux personnalités.
C'est en tout cas la lecture que nous propose Rainer Rachfeld, un caricaturiste allemand, dans ce dessin paru hier sur son site et sur la plateforme Cartooning for Peace. Un face-à-face donc entre Nikol Pachinian, premier ministre de Géorgie, et Ilham Aliyev. Excusez-moi, d'Arménie, et Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan. Rachfeld les a représentés devant une table presque côte à côte, et sur cette table, qui n'est pas loin de là celle des négociations, se trouve une carte de la région, et plus précisément de cette province tant disputée, le Nagorno-Karabakh. Une carte qui fait penser au plateau de risque, vous savez, ce jeu de société où les joueurs doivent conquérir les territoires voisins en massant leurs troupes aux frontières. Et bien justement, Pachinian et Aliyev tiennent chacun dans leurs mains un char d'assaut miniature qu'ils avancent sur la carte, miniature mais bien réelle puisqu'ils ont fait feu et leurs tirs forment au centre un bel artifice. Enfin, un troisième personnage se tient derrière eux et tente désespérément de les arrêter, c'est Angela Merkel, la chancelière allemande. « Faites la paix », leur intime-t-elle, ou au moins un cessez-le-feu. Mais elle a beau tirer sur leur cravate pour les forcer d'arrêter, aucun n'y prête attention, tout absorbés qu'ils sont par la bataille en cours. Une guerre de près de 30 ans. Et l'arrivée d'un nouveau président, Nikol Pachinian, à la tête de l'Arménie, n'y a rien changé. Cet ancien journaliste devenu député était l'un des organisateurs de la révolution de velours qui provoqua la chute de l'ancien régime en 2018, vous en parliez tout à l'heure. Mais s'il incarne l'espoir d'un changement radical sur le plan de la corruption et de la lutte contre la pauvreté en Arménie, sa politique étrangère est moins révolutionnaire. Pachinian n'a ni pris ses distances avec son parrain historique, la Russie, ni renoncé à sa souveraineté sur les territoires contestés du Haut-Karabakh. Côté Azerbaïdjan, c'est davantage dans la continuité que Ilham Aliyev est arrivé au pouvoir en 2003 après que son président de père, malade, l'eut désigné comme successeur. Élu avec une large majorité malgré les protestations de l'opposition, il se maintient dès lors au pouvoir dans un climat d'autoritarisme et de logique dynastique. Sa femme occupe le poste de vice-présidente. Ainsi, bien que tout oppose les deux hommes sur le plan du parcours et de l'exercice du pouvoir, les voilà qui ont endossé le même rôle de chef de guerre, la même rhétorique martiale et patriotique. Et c'est bien ce que nous enseigne la métaphore du jeu de stratégie. Ce n'est pas la nature de votre régime politique qui vous fera gagner, mais le nombre de pions dont vous disposez.
Merci beaucoup Mélanie Chardon donc pour ce dessin qu'on met sur le fil Twitter de Culture Monde, sur la page de France Culture. Peut-être une réaction, c'est vrai que quand on s'intéresse comme ça à un conflit, qu'on parle de régionalisation, d'internationalisation, tout ça, qui est évidemment un sujet très important, il faut aussi regarder peut-être les pays en question. L'Arménie d'abord, qui effectivement en 2018 a eu sa révolution avec un nouveau Premier ministre qui est arrivé, Nikol Pachinian. La question de savoir qu'est-ce que ça a changé au rapport avec la Russie est peut-être intéressante. Gaïd Zmination, on va vous entendre sur ce point-là. Et puis on regardera du côté de l'Azerbaïdjan aussi pour voir, là on est plus dans la continuité, puisque Aliyev, le président, a hérité en été du pouvoir de son père. Donc on est installé depuis longtemps et en même temps, il y a peut-être un pouvoir qui est plus fragile qu'on peut le penser. Réaction sur le dessin et puis en particulier, Gaïd Zmination, sur la question de ce qu'a changé l'arrivée de Nikol Pachinian.
Alors déjà, c'est toute une classe politique qui a quitté la scène, l'ancienne, celle de Khodjarian et de Serge Sarkissian. Nikol Pachinian a impulsé quelque chose de nouveau qui est la lutte contre la corruption. Et il a réussi quand même à récolter dans les caisses de l'État en l'espace de 10 mois, plus de 1 milliard de dollars. C'est pas fini. Ensuite, c'est un régime qui est légitime a priori, puisque... la société a encore confiance en lui, donc alors que La plupart des scrutins précédents eh bien, étaient entachés, comme vous l'avez dit, entachés de fraude électorale. Et donc, il y avait une sorte de divorce, quelque part, entre la société et le pouvoir. Et ce que veut Nicole Pachinian dans la relation avec la Russie, vous avez raison d'insister là-dessus. En fait, ce qu'il veut, lui, c'est réévaluer de l'intérieur le couple Moscou-Erevan. Il voudrait ne plus être considéré comme un vassal, mais dans une relation plus équilibrée, pas forcément... équilibré à 50-50, mais quelque chose qui met l'Arménie en position plus autonome, entre guillemets autonome, plus autonome par rapport à Moscou. Et d'aller chercher, pourquoi pas, des alliances, pas forcément alliances, mais des relations plus étroites avec notamment l'Union européenne, principalement.
Et alors, pardon, est-ce que précisément cette séquence-là ne peut pas être une opportunité pour Poutine pour justement inverser un peu la vapeur, rejeter un peu justement cette autonomisation que voudrait Erevan, parce que pour avoir le soutien de la Russie, il faut une contrepartie, je vais dire.
Alors, autonomisation par rapport à la tradition de la relation russo-arménienne. Mais je pense qu'il est plutôt dans une revalorisation des relations bilatérales. Je ne sais pas s'il y arrivera. Avec ce qui se passe en Biélorussie, on peut se poser la question effectivement du jeu de Poutine et même du jeu de l'ancien régime en Arménie qui fait tout pour noircir Pachinian auprès des Russes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment Nicole Pachinian fait comprendre à la Russie que vous êtes en difficulté par rapport à la Turquie dans cette affaire, et Nicole Pachinian pousse ses pions dans la région pour faire comprendre à la Russie que certes, nous avons besoin de vous, Russe, mais vous avez aussi besoin de nous.
Tornike Gordadze, si on regarde du coup de l'autre côté, alors ça vous empêche pas de réagir sur l'Arménie et l'évolution politique depuis 2018, mais c'est vrai que du côté de l'Azerbaïdjan, on peut se demander si finalement Aliyev ne se montre pas fort sur la scène militaire parce qu'il est un peu fragilisé sur la scène intérieure. L'économie en Azerbaïdjan ne va pas très bien, il y a eu de nombreux efforts pour essayer de diversifier une économie qui en réalité est très très dépendante du pétrole. 50% du budget du pays aujourd'hui, c'est le pétrole, sauf qu'on a échoué et que le développement économique se fait attendre. Est-ce que c'est pas aussi parce que ça se passe pas très bien sur la scène intérieure que l'on va justement...
Dans tous les cas, de toute façon, mais ici aussi, aussi bien en Arménie qu'en Azerbaïdjan, la vie politique interne influe sur la position extérieure et sur la position dans le conflit. Ce qui concerne l'Azerbaïdjan, on a parlé des affrontements du mois de juillet, où les Arméniens en fin de compte, ont quand même progressé un tout petit peu sur le terrain, mais symboliquement, c'était très important. Il y a eu des manifestations à Bakou qui ont dénoncé, qui demandaient au gouvernement d'être plus agressif et de passer à l'attaque, etc. Au début, on a cru à une manifestation un peu montée par le pouvoir pour justifier ensuite ces actions, mais finalement, le gouvernement était assez vite dépassé par ce mouvement. Et donc, c'est aussi une réponse à ça pour relégitimer le gouvernement d'Azerbaïdjan. Et donc, c'est pour ça qu'ils essayent un petit peu de ressouder la population derrière le gouvernement. Vous avez évoqué la crise économique. Oui, il y a une crise économique surtout liée à la baisse des revenus qui sont liés au pétrole, etc. Maintenant, pour revenir aussi à l'Arménie, vous avez eu tout à fait raison de dire que après la révolution Pachinian, comme avant la révolution, c'était quelqu'un qui avait déjà critiqué cette forte dépendance de l'Arménie vis-à-vis de la Russie. Il avait appelé de son vœu un rapprochement avec l'Union européenne. Mais une fois Pachinian à la tête du gouvernement, il voit quand même que sa marge de manœuvre en politique étrangère est un petit peu limitée. Donc c'est pour ça qu'il a même beaucoup fait pour rassurer la Russie. Parce que les Russes, finalement, ont laissé... Ils n'étaient pas très contents de cette révolution, parce que la Russie se méfie toujours des révolutions populaires, parce qu'ils ont le gouvernement de Poutine a toujours peur que ça arrive un jour en Russie. Mais ils ont accepté cette révolution arménienne, tout en espérant que, bon, un jour, il va se planter. Donc
mais aussi parce que Pachinian a donné des garanties.
Et il a donné des garanties.
Il a été très critique pour prendre le pouvoir.
Bien sûr.
On se souvient de cette grande marche contre la corruption
Évidemment.
Qu'il avait fait. Sauf qu'en arrivant au pouvoir, l'un des premiers déplacements qu'il fait, c'est à Moscou, précisément, pour donner des garanties.
Et tous ces groupes étaient politiques en Arménie, étaient plus ou moins liés à la Russie. On les voit aujourd'hui dans l'opposition, de critiquer Pachinian, etc. Et donc, d'ailleurs, quand Pachinian a essayé d'arrêter un certain nombre de représentants de cette ancienne élite, tout de suite, Moscou est monté au créneau et les a défendus. Peut-être deux mots sur Angela Merkel,
et
qui est
quand même là.
Qui est sur le dessin au milieu quand même.
Pas seulement d'Angela Merkel, mais de l'Union européenne de façon générale. Ouais. L'Union européenne, à mon avis, pourrait jouer davantage de rôle pour essayer de jouer de son poids dans cette région. Pourquoi ? Parce que à la fois l'Union européenne est premier client de l'Azerbaïdjan et de l'énergie de l'Azerbaïdjan. Parce que pour l'Union européenne, l'Azerbaïdjan représente, en tout cas, le pétrole et le gaz azerbaïdjanais représentent une alternative à sa dépendance vis-à-vis de Moscou. Donc c'est un grand client qui peut aussi montrer qu'il a la capacité de d'intervenir positivement dans ce conflit, et aussi dire à l'Arménie qu'on peut aller davantage dans le rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne. Bon, le problème de l'Union européenne, c'est le problème général, c'est la soft power, c'est qu'on n'a pas on n'est pas une puissance militaire, etc. Et donc du coup, et puis on a plein d'autres problèmes ailleurs, et donc c'est pour ça que l'Union européenne,
ça va crisper Moscou, ça. Hein.
Et le problème aussi, Moscou, c'est que l'Azerbaïdjan, le problème aussi, c'est pour les Européens, et c'est un vrai problème pour les valeurs européennes, c'est que l'Azerbaïdjan est une dictature. Et alors oui, sur le plan économique, l'Azerbaïdjan est le poumon du Caucase du Sud, mais d'un point de vue politique et des valeurs, ça pose un vrai problème. Par exemple, on a vu l'histoire de la corruption avec le caviar, ça a été l'objet d'une enquête.
La diplomatie du caviar.
C'était l'objet d'une vaste enquête par plusieurs médias européens, dont Le Monde. Et ensuite, l'arrestation des opposants. Il n'y a pas d'opposition en Azerbaïdjan. Le pouvoir, si vous regardez bien, depuis fin des années 60, il y a une famille au pouvoir, la famille Aliyev, jusqu'à aujourd'hui, excepté une parenthèse de 1987 à 1993. Vous vous rendez compte ? La même famille au pouvoir depuis fin des années 60.
C'est une famille qui sait y faire avec les questions sécuritaires.
Ah bah oui.
Papa était le responsable de la branche du KGB en Azerbaïdjan.
Général du KGB et membre du Politburo.
Il était après le premier secrétaire du Parti communiste.
Exactement. Donc il a nettoyé tout le Nakhitchevan de sa population arménienne. Et là, ce qui se passe au Karabakh, parce qu'il faut lier au Nakhitchevan, l'autre enclave que vous avez entre l'Arménie, la Turquie et l'Iran, c'est une enclave qui a été rattachée par Staline à l'Azerbaïdjan en 1921, dans le même scénario que celui du Karabakh, mais qui a été vidé de sa population arménienne. Et donc, il y avait 50% d'Arméniens jusqu'aux années 40-50, après la guerre, c'est vidé. Donc, les Arméniens du Karabakh, eux, et d'Arménie, ils ont ça en tête, le précédent du Nakhitchevan. Donc, effectivement, il faut essayer de trouver raison et de réduire au maximum le nationalisme dans cette région.
Par souci d'objectivité, évidemment.
Je suis très objectif.
Chacun son tour. Tandis que Gordazé, l'objectivité de Tandis
que par souci d'objectivité, si tout au long du XXe siècle, il y a eu donc renforcement de la majorité azerbaïdjanaise au Nakhitchevan, on a vu aussi le phénomène inverse. Il y a quand même, on peut pas dire qu'il n'y a pas eu de départ d'Azerbaïdjanais, d'Arménie, du Karabakh et des régions autour.
Donc mais je ne dis pas le contraire. Je parlais du Nakhitchevan, Torniké. Je ne parlais pas des échanges de population et des réfugiés azéris.
Lorsqu'on parle de nettoyage ethnique, il faut mentionner les deux. Surtout, autour du Karabakh, ce sont les Azéris qui ont été poussés. Il faut quand même évoquer ça.
Mais je l'évoque. Non seulement je l'évoque, mais d'abord, je l'évoque par les faits. Moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est les faits. Peu importe qui est derrière, c'est les faits. Effectivement, il y a aussi des réfugiés, et je l'ai écrit, je le dis.
Oui, il y a des mouvements de population tout au long du XXe siècle. Mais ce qui est vrai, pardon, Gaïd Zminassian, c'est que en 1921, quand Staline prend la décision.
22.
Quand il prend cette décision-là, à ce moment-là, sur ce territoire-là, c'est 94%, j'ai regardé l'information hier, d'Arméniens qui vivent sur ce territoire-là. À ce moment-là, je suis ni pour ni contre. Bien au contraire, c'est encore j'ai pas de position, mais c'est vrai que à ce moment-là, quand on prend cette partie du territoire à et qu'on la rattache à l'Arménie, c'est décidé à Moscou par Staline.
Rattaché à l'Azerbaïdjan,
sur décision de Staline à Moscou. Oui. C'est ça.
C'est par un machiavélisme terrible. Si vous regardez la carte, bon, on n'a pas le temps de voir entre le Nakhitchevan, le Zangezur, qui est le sud de l'Arménie, le couloir de la Chine, le Karabakh, c'est une frontière impossible. Les deux États et devenait, c'était un conflit, c'était une mine de à retardement que ça allait exploser.
Raison pour laquelle, au moment de l'effondrement de l'URSS,
évidemment,
les différents... au lieu d'étouffer les nationalismes, il a fait quelque chose,
divisé,
les nourrit, il les a entretenus.
Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, de nous avoir éclairé ce matin sur ce très délicat dossier du Haut-Karabakh. Tornike Gordadze, Gaïd Zmination, je rappellerai Gaïd Zmination que vous venez de signer Les Sentiers de la Victoire, peut-on encore gagner une guerre pour l'interrogation, qui sont parus aux éditions Passées Composées. Dans un très court instant, on retrouve Lucille Comeau et la Grande Table.